L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée. Tu as été par l'amour créé.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé « Faire oraison, c'est » 8e et dernier épisode, mai 2025, « Quand je fais oraison, j'aime ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section « Frères », onglet « Activités ». Bonne écoute.
Je le sais, tu te trouveras dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver. Moi, ne me cherche qu'en toi.
Pour cette dernière rencontre d'oraison de la saison 2024-2025, quand je fais oraison, trois petits points. Quand je fais oraison, j'aime. Et j'ai hésité à ajouter un adverbe. Mais je trouve cela... peut-être superflu, du moins par après, je vais en ajouter un. Quand je fais oraison, j'aime. D'abord parce que j'aime faire oraison. De mois en mois, d'année en année, c'est un fait que j'aime faire oraison. Et là, je ne parle pas que de moi. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose, je pense que c'est un peu une étape dans une vie d'oraison. Ça peut venir vite, ça peut venir moins vite. Un jour réalisé, par soi-même ou parce que quelqu'un, quelque chose nous alerte, qu'on aime faire oraison. On aime être à l'oraison. Étant entendu que cette oraison, elle est très variable, elle est très variée, elle est changeante, je peux continuer d'avoir des difficultés à lui faire de la place dans ma vie, ou bien donc les circonstances peuvent avoir changé qui font qu'aujourd'hui c'est plus difficile qu'hier, ou c'est autrement, qu'importe. Il reste que, précisément au travers des changements, qu'ils soient heureux ou plus difficiles, ce constat s'impose à moi que j'aime faire oraison. J'aime y être, j'aime y retourner, j'aime penser à l'oraison, éventuellement j'aime en parler, peut-être pas, il y a des gens qui n'aiment pas trop parler de l'oraison, là. C'est correct, mais j'aime découvrir aussi, j'aime reconnaître qu'il y a entre ma pratique de l'oraison et puis tout le reste de ma vie, pas simplement ma journée, mais ma vie, il y a des relations, il y a des canaux, il y a des connexions qui passent, et j'aime qu'il en soit ainsi. Alors que ce n'est pas quelque chose que j'édifie. Depuis le début de cette série, on a insisté sur le fait que le thème ne nous poussait pas à imaginer trouver les bonnes pratiques, mais plutôt à reconnaître que lorsqu'on se met à faire oraison, y a des choses qui se passent et on se trouve à faire telle et telle chose. On l'a évoqué durant l'année, y compris des choses qui peuvent sembler, qui sont très passives, comme lorsque nous parlions du fait de pleurer. A priori, pas quelque chose qu'on prévoit, qu'on se met au programme du matin. Et surtout, j'aime faire oraison parce que j'aime découvrir que l'oraison me conduit dans la vie. L'oraison me fait sentir combien ce qui existe, les êtres vivants, le créé, est bon, et appelle mon amour, m'éveille à l'amour, me paraît profondément aimable. La relation la plus profonde que j'entretiens avec ce qui est et avec ceux et celles qui sont, c'est de l'ordre de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite, qui me porte. Découvrir que les êtres sont vivants, que Dieu lui-même est vivant. Et l'oraison me fait m'approcher de ce qui est un mystère, mais un mystère concret, en quelque sorte. Un mystère réel, parce que Dieu est bien réel. Et le plus réel de Dieu, c'est qu'il soit vivant et que lui-même est le premier à aimer ce que je considère, ce que je regarde, ce que j'apprécie, ce que j'aime. Il y en a un qui l'aime avant moi, très probablement, mais en même temps que moi, certainement pas de la même façon. Mais d'une façon pourtant que je peux rejoindre parce qu'elle est de l'ordre de l'amour. On est pris, si différents puissions-nous être, lui et moi, si différents puissions-je être des autres vivants, même de ceux et celles que je connais, que j'aime bien. Il y a un mystère du vivant qui est que c'est par l'amour qu'on saisit le caractère vivant de ceux et celles qui nous entourent, et même de celui qui à la fois nous entoure et parfois nous semble si peu présent, et pourtant il l'est, de Dieu lui-même. Il y a une continuité dans tout cela. Et je pense à Jean de la Croix qui a une petite... vous savez peut-être que Jean de la Croix nous a laissé un héritage un peu curieux, une quantité assez conséquente, c'est plusieurs centaines de tout petits... c'était des billets à l'origine, hein, c'était écrit sur des petits billets, c'était sa façon de faire, entre autres pour les Carmélites de Béas, c'est assez célèbre. Entre autres une Carmélite d'une femme très grande profondeur, très très simple. Une profondeur, c'est grâce à elle qu'on a la petite métaphore de la grenouille. Je vous reparlerai peut-être une autre fois. Mais Jean de la Croix laissait des tout petits billets écrits, il y avait une ligne, deux lignes, trois lignes, une phrase, deux phrases, trois maximum. Alors ça porte différents noms, dépendamment des séries en quelque sorte qu'on a récupérées, hein, mais les gens partaient, et c'est très intelligent, c'est très pédagogique, les gens partaient avec un petit billet grand comme ça qu'ils pouvaient plier, se mettre dans la poche. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté ce genre de choses, je sais qu'aujourd'hui on écrit moins là, mais par exemple moi ici sous la main, j'ai un petit papier de ce genre-là, un verso de papier déjà utilisé, puis on peut écrire un demi-verset de Bible qui nous a touché ou je ne sais quoi. Et puis l'intérêt, c'est de le mettre dans la poche, parce qu'un jour ça ressort. C'est ce que Jean de la Croix faisait. Et sur l'un de ses billets, il a écrit El mirar de Dios es amar. La manière de. En français, on est obligé de faire une périphrase. Ou alors d'utiliser un nom d'ailleurs. Le regard de Dieu, c'est d'aimer, mais ça ne marche pas en français. L'espagnol dit admirar Dios es amar. Le regarder de Dieu, c'est aimer. Et vous en avez un écho, je vais vous le sortir en version française, vous en avez un écho dans le cantique spirituel à la troisième strophe. Je vais préparer ma page. Ô forêt très épais massif, plantée de la main de l'épée, prairie au gazon verdoyant, de belles fleurs tout émaillées, dites-moi, je vous prie, s'il vous a traversé, c'est la strophe 4, et la strophe 5, tout ruisselant de mille grâces, en hâte il traversa nos bois, dans sa course il les regarda, sa figure qui s'y grava, suffit à les laisser revêtues de beauté. C'est peut-être pas la traduction que je préfère. La dernière, je vous cite les trois dernières strophes en espagnol, parce que c'est quand même pas très difficile. Yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos les dejó de hermosura. Hermosura, c'est la beauté en espagnol, c'est quasiment du latin. Yéndolos mirando, les considérant, les regardant, pasó por estos sotos con presura, avec rapidité. Yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos les dejó de su hermosura. Les a laissés revêtus par le simple fait de les regarder. C'est magnifique. Surtout que dans ce cantique, c'est le verbe. Hein, cette idée que cette deuxième personne de la Trinité, cette unique engendrée, cette parole créatrice, c'est par elle que tout est créé. Et Jean de la Croix l'imagine comme cet insert, en l'occurrence, dans le cantique spirituel, c'est un cerf qui s'en va après avoir blessé son amoureuse colombe. Et ce cerf, c'est aussi la parole vivante, la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole aimante, la parole qui se fait chair. Et il envisage, il regarde toute la beauté créée qu'il traverse. Et c'est comme s'il en a déjà fait deux strophes de toute cette beauté, de Los prados esmaltados, hein, les prairies émaillées de fleurs. Là, on est en versant de montagne. Vestidos les dejó de su hermosura. Ce qu'il leur laisse, c'est sa beauté, de les avoir regardés. que lui les ait regardés, ça les rend encore plus belles. El mirar de Dios es amar. Le regarder de Dieu, le voir de Dieu, là, il ne peut pas voir autrement qu'en aimant. Et ça revêt de beauté. C'est quelque chose qui nous touche dans l'oraison. Parce que c'est aussi ce qui nous saisit au travers de toutes les ratures infligées à la création, infligées aux créatures, parfois qu'elles s'infligent elles-mêmes. Il y a. Les pires ratures ne peuvent complètement masquer la beauté de l'être qui peut ressortir. Hein, les personnes les plus frappées par la violence, que ce soit physiquement ou moralement, que sais-je, les plus battues par la malchance, que sais-je. On ne sait jamais quand est-ce que de cela, au travers de cela, un petit peu comme le Christ, hein, le Christ lui-même, la force tout de même de l'être. La beauté de l'être va ressortir. Et ça, c'est quelque chose qui nous saisit dans l'oraison. Parce que dans l'oraison, raison pour laquelle, on se l'est déjà dit, il est assez mal indiqué de trop vite faire la chasse aux distractions. Dans l'oraison, ces visages qui nous reviennent, qu'ils soient connus ou inconnus, ces personnes. Et quand je dis des visages, pas forcément des visages qui sont détaillés. C'est au travers du visage, c'est la présence même de ces personnes, c'est le noyau même de ces personnes qui nous reviennent au cœur. À quelle cause faut-il se rapporter pour expliquer qu'elle puisse à ce point nous saisir, ces personnes, dans l'oraison? Il n'y a aucune autre cause que leur existence et que un amour qui agit en nous, qui n'est pas de nous, mais qui est en nous. Cette force des sentiments qui nous gagnent pour ceux et celles qui habitent notre mémoire, c'est plus que notre mémoire qui nous habite mystérieusement. Durant notre oraison, c'est la force de l'amour qui est l'Esprit Saint, qui nous habite et qui nous saisit pour elle. L'expérience que nous faisons, et c'est l'adverbe que j'ai failli mettre, mais que je voulais ne pas mettre, quand je fais oraison, j'aime librement. Et c'est vrai. C'est vrai parce que c'est une expérience profonde de liberté. D'abord parce qu'il n'y a rien qui m'oblige à l'oraison, et il n'y a rien qui oblige mon oraison de se passer comme prévu. C'est quand même bien une preuve qu'on est libre, là. C'est tout à fait réciproque. C'est précisément parce qu'on est dans une liberté totale qu'aucune méthode ne fonctionne, que ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera pas demain, que etc. Parce que l'objectif, c'est pas que quelque chose fonctionne. Ce que l'on cherche, et c'est plus qu'un objectif dans l'oraison, c'est cette expérience d'un amour libre qui nous saisisse. Et il n'y a pas de dispositif pour cela. En revanche, nous sommes capables de l'éprouver, de le reconnaître. Indubitablement. Hein, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de fils et filles, un esprit de pleine liberté. L'oraison est vraiment le lieu de la pleine liberté. D'abord, il n'y a aucun commandement qui nous oblige à faire oraison. L'oraison n'est la mise en application d'aucune norme. Il n'y a pas de modèle déposé, il n'y a rien de tout ça. Il y a rien. Pourtant, tout ce que je viens d'évoquer peut aider, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ce qui est certainement relié, ce qui est certainement, à mon sens, la raison profonde du fait que l'oraison nous échappe tellement, c'est qu'elle échappe à la fois à nos intentions de l'installer, de la saisir, et puis aussi à nos peurs inconscientes de ne pas correspondre à une norme ou à une loi. Or, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des normes et des lois qui soient justes et nécessaires dans notre vie, c'est sûr. Mais aucune norme et aucune loi ne peut faire de nous des êtres libres. La norme ou la loi, c'est déjà vrai en morale et a fortiori dans notre vie chrétienne, la norme ou la loi ne fait pas de nous des êtres libres. Le seul qui fasse de nous des êtres libres, c'est l'Esprit Saint, tel que Paul l'évoque plus qu'il ne l'explique dans l'Épître aux Romains que je citais à l'instant. Il reste que si cette liberté, elle est capitale, c'est même pas une liberté qu'on peut demander ou qu'on peut se donner à soi-même. C'est une liberté qu'on se découvre. On se découvre libre et libre d'aimer. Si importante que soit cette notion de liberté, il reste que je préférais garder comme titre, je reviens à mon titre, quand je fais oraison, j'aime. Parce que ça me dit aussi que je ne sais pas si toutes les langues permettent d'utiliser de manière absolue le verbe aimer sans objet. Les tournures grammaticales en anglais, elles le permettent pas des masses, là. On va pouvoir dire qu'on est en amour, qu'on est amoureux, qu'on tout ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose que dire j'aime. Or, lorsque je dis que quand je fais oraison, j'aime, je suis aussi en train de dire que je reconnais que j'y suis à aimer, que c'est quelque chose qui me tient autant que je veux le vivre. Autant que je veux aimer, je découvre que j'aime. Quand je dis autant, c'est pas à proportion, justement, c'est je veux aimer. Et c'est ce que je veux et c'est ce dont j'ai soif. Mais je me découvre à aimer bien plus certainement que selon le vouloir que j'en avais. C'est surprenant. C'est surprenant. Et ça, c'est quelque chose qui nous déborde. Et cet amour qui nous gagne, je le reliais plutôt à la question du vivant. Alors cet amour, il peut être universel et général. Nous avons cependant particulièrement partie liée avec les êtres spirituels. C'est-à-dire concrètement nos frères et sœurs en humanité, tous autant qu'ils soient, tout autant qu'ils soient. Alors là, il y aurait un long chemin à faire. Je l'évoque simplement à cause d'échanges récents. J'étais avec une communauté séculière dans l'Abitibi en fin de semaine passée. Et j'ai pris conscience, à cause d'un certain nombre de témoignages, combien l'amour est la forme la plus profonde de la prière. Et que d'un côté, c'est parfaitement désarmé. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, lorsque on le porte dans l'amour, dans la prière, ça ne guérit pas les gens, par exemple. Et je pense spécialement à une amie qui récemment me partageait, elle a deux enfants très gravement malades, elle me parlait de l'un d'entre eux, et ce qu'elle m'a partagé m'a saisi parce que ça témoignait d'une profondeur de foi assez étonnante. Et je me disais, voyons, à quoi cela sert-il? Que je prie pour ce garçon, cet adolescent. Ben, en fait, concrètement, à rien, mais mon amie est loin d'être folle. Elle sait très bien que c'est pas pour que ça serve à quelque chose. Non, mais c'est que c'est pas simplement que nous pensons. Ah, c'est déjà beaucoup de dire qu'on va penser à quelqu'un. Mais dans l'horizon, il se trouve que ceux et celles à qui je voulais penser, puis souvent j'oublie de penser à eux, parce que moi on m'envoie des textos, par exemple une dame régulièrement qui m'envoie des textos, puis c'est très beau, elle confie des intentions de prière, des prénoms, c'est très concret, hein. Alors je l'écris, parfois je le glisse derrière mon icône, puis le problème c'est que ça finit par prendre le bord. Or, c'est étonnant de voir que dans l'oraison, des gens que j'ai jamais vus, hein, dans l'oraison, et ce que je dis là est certainement pas mon cas limité à moi, dans l'oraison, ces personnes, derrière de simples prénoms et quelques situations, prennent corps, sont vivants dans notre raison. Et tout ce que nous avons pour eux, c'est de les aimer de manière complètement démunie, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et pourtant, ce qui nous saisit, c'est un amour pour eux. Et cet amour n'a aucune limite. Je me souviens de l'avoir évoqué il y a déjà 2 ans à l'école Horizon. Ce que l'Esprit Saint travaille en nous n'est même pas en vue de nous rendre plus efficaces pour quoi que ce soit, mais que nous en venions à aimer, pas par volonté, mais parce que nous nous découvrons à aimer ceux et celles que nous portons dans l'oraison, c'est pour nous, curieusement. Au sens où l'Esprit Saint n'en a pas besoin pour faire du bien à ces gens-là. Mais ça nous change, nous, parce que nous devenons des êtres qui aiment. Et de manière assez peut-être plus précise, dans le danger d'une certaine, j'ose pas dire futilité, mais d'une, je ne sais pas comment traduire cela, puis c'est pas le lieu ce soir de partir dans de la sociologie, mais dans nos sociétés actuellement où on peut, par l'intermédiaire de notre écran, avoir vue directe sur, par exemple, la façon dont la population de Gaza se fait écraser aujourd'hui, enfin affamée plus exactement, c'est parfaitement abject. C'est totalement abject. Bien évidemment qu'on va prier pour eux, mais il y a une espèce de distorsion entre les capacités de représentation et ce que vraiment, ce qui vraiment se passe dans notre cœur. Ce qu'il y a dans ce qui se joue derrière, me semble-t-il, c'est que notre cœur soit enfin capable d'aimer quoi qu'il advienne et qu'il découvre que foncièrement, même si ça ne le rend pas plus capable, même si ça ne le rend pas plus opératoire, plus actif, plus tout ce qu'on veut, plus intelligent au sens d'avoir des idées, des solutions, que notre cœur, que le plus profond de nous-mêmes soit capable d'aimer malgré toute logique, y compris une logique qui actuellement est parfaitement victorieuse, c'est-à-dire la logique de de la pure violence, c'est au moins une victoire en nous de l'Esprit Saint. Parce que nous pourrions encore ajouter à tous les drames celui de ne pas nous laisser rejoindre. Et de ne pas, ben c'est déjà bien d'y penser, mais de penser sans que ça aille jusqu'à cette brèche intérieure de l'amour. C'est déjà beaucoup de penser. Et il faut aussi penser concrètement, se dire, OK, comme société, si on prend cet exemple-là, comme société, que devons-nous faire? Comme citoyens, que devons-nous faire? Etc. Mais le plus profond, où du reste peut se jouer un redoublement de la violence si notre cœur finit par être gagné par précisément l'amertume et le ressentiment envers ceux et celles qui sont la cause de tant de violence. Dans un tel cas, notre cœur, lui, s'ouvre à la violence, qui n'aidera pas ceux et celles qui sont absolument écrabouillés, et qui ajoutera encore un cœur de plus dans la violence. Il y a tout de même un enjeu là-dedans. Or, je voudrais revenir à cela. Lorsque je dis, quand je fais oraison, j'aime, je veux aussi préciser qu'il y a presque une dimension de surprise. D'abord, c'est une découverte presque intime que quand je fais oraison, j'aime. On ne s'attendait pas forcément à ça. Parfois, quand on va faire oraison, on s'attend à batailler. On s'attend à lutter contre le sommeil. On s'attend à devoir fermer toutes les fenêtres Windows qui ont la fâcheuse tendance à se rouvrir en 4 fois plus d'exemplaires. Windows ou le système d'exploitation de votre choix. Et c'est une étonnante surprise. Et je dis que c'est une surprise intime parce que ça nous met plus profond que tout ce qu'on aurait souhaité, que découvrir que là, quand je fais oraison, bah, j'aime. Et je voudrais citer un texte que ceux et celles qui participent au, ben, il n'y en a pas ce soir, au groupe d'oraison, vous allez avoir comme dernier texte au mois de mai. Le dernier chapitre du chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Je vais le citer un petit peu longuement pour éviter de faire des coupes. C'est un texte d'une très grande beauté, je ne vais certainement pas le commenter. Je vous rappelle que dans le chemin de perfection, à partir du chapitre, je ne sais plus combien, là, 18 ou 20, Thérèse a commencé de commenter le Notre Père en disant que si après tout, en priant le Notre Père, on essaye un peu de faire attention à ce qu'on dit, en fait, ça va être de l'oraison. C'est simplifié. Et on arrive à la fin. Sed liberanos a malo, amen. Mais délivrez-nous du mal, amen. Le bon Jésus avait bien raison, à mon avis, de faire cette demande pour lui-même. Pour lui-même. Nous voyons en effet combien il devait être fatigué de la vie, puisque, à la scène, au dernier repas, il dit à ses apôtres, j'ai désiré ardemment célébrer ce dernier repas avec vous. Or, comme c'était le dernier, nous pouvons supposer jusqu'à quel point la vie lui était devenue pénible. Et aujourd'hui, après 100 années d'existence, non seulement on n'est pas fatigué de vivre, mais on a toujours le désir de rester plus longtemps sur la terre. Nous sommes loin, il est vrai, d'éprouver les souffrances, les douleurs et la pauvreté par lesquelles est passée Sa Majesté. Que fut en effet sa vie entière, sinon une mort continuelle, puisque ce bon maître avait toujours devant les yeux cette mort affreuse qu'on devait lui infliger. Je précise que là, Thérèse est dépendante d'une tradition qui est née à peu près durant le Moyen Âge. Je pense qu'on la trouve en... Bah, l'imitation de Jésus-Christ est certainement pas la première, mais est célèbre pour cela, que Jésus aurait eu très très tôt la prescience de sa fin, y compris dans ses moindres détails, et qu'il aurait vécu toute sa vie avec ça dans l'âme. Bon, c'est assez peu ancré, enfin il n'y a aucune trace de ça dans les évangiles, mais c'est respectable comme tradition, hein, je ne suis pas en train de... Mais c'est surtout pour l'expliquer. Or, ce qui est intéressant, c'est que... À l'époque de Thérèse, c'est quasiment un dogme. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ça marque beaucoup Thérèse. Bon, fort bien. Faut aussi accorder cela que, à l'époque, et d'ailleurs jusqu'au 19e siècle, toute l'enfance de Jésus, tout ce qui a précédé sa vie publique, n'a absolument aucune importance. C'est une considération très récente. C'est même le 20e siècle, pour être exact. Thérèse continue. Que fut en effet sa vie entière, sinon une mort continuelle? Oui, puisque ce bon maître avait toujours devant les yeux cette mort affreuse qu'on devait lui infliger, encore n'était-ce là que la moindre de ses douleurs. Mais que ne dut-il pas éprouver en voyant tant d'offenses faites à son père, et tant d'âmes à se damner? C'est pas les mêmes, hein. Tant d'âmes à se damner. Souvenez-vous de Thérèse qui apprend tout ce qui se passe aux Indes, donc au Pérou et au Mexique, et qui est horrifié par la pensée que tant d'âmes se perdent, aussi bien les autochtones, les Indiens comme on les appelle, qui ne connaissent pas le Christ, mais aussi et peut-être surtout les conquistadores, ça comprend ses propres frères, dont la violence commence à se faire connaître en Espagne, au point que le roi a dû sévir. Bon, mais ça n'a pas été suffisant. Si un tel spectacle cause d'indicibles tourments à une âme qui possède la charité, que ne dut pas endurer notre Seigneur qui était la charité sans borne et sans mesure? Ça, c'est beau, ça. La charité pour Thérèse, c'est pas faire la charité, là. C'est quelque chose de très très fort. Et comme elle a été saisie, y compris par ce qui se passait en France, alors avec les informations de son époque, mais qu'importe, elle est profondément saisie et c'est pour ça qu'elle rassemble des sœurs au Carmel. Aidez-moi à supplier le Seigneur, etc. A fortiori, que ne dut pas endurer notre Seigneur, qui était la charité, sin tasa ni medida, dit l'Espagnol, sans borne et sans mesure. Oh, comme il avait donc raison de supplier le Père Céleste de le délivrer de tant de maux et de tant de souffrances, de lui donner enfin et pour toujours le repos dans ce royaume dont il était le véritable héritier. Bon. Amen. Cet Amen qui termine toutes les demandes du Pater signifie, à mon avis, que notre Seigneur demande que nous soyons comme lui, délivrés à jamais de tout mal. Je supplie donc, moi aussi, le Seigneur, de me délivrer de tout mal à jamais, car, loin de m'acquitter ce que je lui dois, je m'endette, peut-être, tous les jours, davantage. Et ce qui fait, alors ça c'est très beau, c'est là que je voulais vous mener, et vous allez voir que c'est, je reprends les deux phrases, vous allez voir que ça arrive dans le texte de façon très étonnante. C'est pour ça que je sentais bien cette. La traduction française est très belle, l'espagnol est peut-être encore plus fascinant. Amen. Cet Amen qui termine toutes les demandes du Pater signifie, à mon avis, que notre Seigneur demande que nous soyons comme lui, délivrés à jamais de tout mal. Je supplie donc, moi aussi, le Seigneur, de me délivrer de tout mal à jamais, car, loin de m'acquitter de ce que je lui dois, je m'endette peut-être tous les jours davantage. Et ce qui fait mon tourment, ô Seigneur, c'est que je ne puis savoir de manière certaine ni si je vous aime, ni si mes désirs vous sont agréables. Vous avez remarqué qu'elle est passée à la deuxième personne, enfin du pluriel, mais elle s'adresse au Seigneur. Et ce qui fait mon tourment, ô Seigneur, c'est que je ne puis savoir de manière certaine ni si je vous aime, ni si mes désirs vous sont agréables. Et là, ô mon Seigneur et mon Dieu, délivrez-moi enfin de tout mal, daignez me conduire au séjour de tous les biens. Et que peuvent-ils attendre ici-bas ceux à qui vous avez donné quelques connaissances de ce qu'est le monde, et à qui une fois vives révèlent les récompenses que leur réserve le Père éternel, etc. Mais cet aveu, ce qui fait mon tourment au Seigneur, c'est que je ne puis savoir de manière certaine ni si je vous aime, ni si mes désirs vous sont agréables. Thérèse ne met pas en doute qu'elle aime, paradoxalement. Mais c'est parce qu'elle aime qu'elle n'en a aucune certitude. Il y a une très grande logique là-dedans. C'est pas une, bah, c'est aussi une logique, on pourrait, enfin, la démonstration démontrerait strictement rien, mais c'est, je veux dire par là que c'est une logique de l'amour. C'est à partir du moment où j'aime, je peux pas prétendre savoir que j'aime. Je peux pas prétendre savoir que j'ai atteint mes objectifs. Je peux pas prétendre que j'en ai fait assez. Je peux pas prétendre que je maîtrise le sujet. Je peux pas prétendre que je l'ai l'affaire là. Si j'aime, si je me découvre soudain dans la sphère de l'amour, qui est justement une sphère sans bornes ni limites, en conséquence, ce que je découvre, ce que j'éprouve, c'est que je ne sais pas si j'aime. Alors que j'ai la certitude intérieure que j'aime. Et ce que je dis là serait déjà certainement vrai d'un sentiment amoureux très intense. Pas simplement d'un sentiment amoureux, mais d'une relation amoureuse profonde, intense. Dans l'histoire, dans le temps. Il en est, de ce point de vue-là, de même avec Dieu. C'est parce que j'aime que je ne sais pas si j'aime. Tant que j'aime pas, la question n'a aucun sens. Mais à partir du moment où j'aime, à partir du moment où je t'aime, j'ai pas de. Je touche pas les bords. Je ne touche pas les bords. Je suis en sécurité, pourtant je n'ai atteint aucune rive. Je reste, et Jean de la Croix le décrit très bien dans la montée du Mont Carmel, parlant de cette âme qui est. Alors on va le retrouver dans le poème de la nuit obscure, parce que justement il est en train de commenter le poème de la Nuit Obscure, hein, la première strophe, Con ansias enamores inflamada. Comme j'ai mon petit livre qui va bien, je vous le fais en traduction française. Ce sera mieux. Je la trouve. Par une nuit obscure, pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Una noche oscura, con ansias, enamores inflamada. Par une nuit obscure, pleine d'angoisse et enflammée d'amour. Et ce qui n'aurait dû être que de l'angoisse se révèle transformé par l'amour. Et l'anxiété demeure, mais elle est complètement changée. Et Jean de la Croix va commencer par commenter, parce que c'est un petit peu le versant très très éprouvé que Thérèse exprime à ce moment-là. C'est beau, parce qu'elle sait qu'elle est en train de finir son livre, et puis il y a des choses d'elle qui vraiment sont en train de passer là en masse. Et Jean de la Croix, dans La Montée du Mont Carmel, parle de cette âme qui est, elle n'est pas en paix, elle ne peut pas douter qu'elle soit saisie par l'amour, mais elle est à peu près sûre qu'elle n'aime pas. Et en même temps, elle serait incapable de dire ça si elle n'était pas saisie par l'amour et déjà aimante elle-même. Et déjà amante elle-même, et déjà aimée elle-même. Et elle en est, et Jean de la Croix dit, c'est très douloureux, parce que non seulement c'est très douloureux, mais ce sont aussi des âmes, bah, concrètement c'est des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants, qu'il faut encourager, et en même temps à qui on n'a pas grand-chose à dire. Parce que ça ne peut passer que par soi-même d'un certain point de vue. Alors, la lecture de Jean de la Croix ou d'autres choses peut aider, évidemment. Mais ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Et ce passage que le poème de La Nuit Obscure développe, finalement, ce passage de cette angoisse qui tenaille à cette anxiété de celle qui est sur la piste, hein, si vous avez, pour ceux et celles qui ont la version qui est plus qu'illustrée, c'est un commentaire graphique, c'est une interprétation graphique, hein. La petite âme qui est jolie comme tout, là, qu'on voit soudain en parallèle de Jean de la Croix se mettre à courir dans son château des mille et une nuits, elle quitte son magnifique palais pour se retrouver dans la forêt. C'est absolument la plus belle, c'est celle de couverture, là. Elle descend en passant. Elle descend. Elle est toute d'anxiété, parce que c'est par l'amour qu'elle est saisie. À l'obscur. Bye bye Esther. À l'obscur, c'est par l'amour qu'elle est saisie. Je vous relis une dernière fois, parce que j'aimerais finir là-dessus, tellement je trouve cela d'une très grande profondeur. Et ce qui fait mon tourment au Seigneur, c'est que je ne puis savoir de manière certaine ni si je vous aime, ni si mes désirs vous sont agréables. Et en même temps qu'elle sait. Elle a ses chevilles en elle-même. Elle a l'absolue certitude qu'elle aime et qu'elle est aimée. Et tout en même temps, elle dit qu'elle est. Et c'est parce qu'elle est, plutôt, c'est parce qu'elle est saisie par cet amour et qu'elle est saisie d'aimer qu'elle en vient à dire, mais je ne sais pas si j'aime. Rendu là, je peux plus prétendre savoir. Si je prétendais savoir, je reviendrais en arrière. Quand je fais oraison, j'aime.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment, j'appelle. Quand je trouve fermé.
Vous avez écouté la huitième et dernière rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Pour obtenir plus d'informations sur la saison prochaine 2025-2026, écrivez-nous à École Oraison Zoom, tout attaché, École Oraison Zoom à commercialgmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org, section Frères, onglet Activités. La poésie Âme ne te cherche qu'en moi de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés. À la saison prochaine.